Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors où en est le rapport entre la science et la religion? Savants et croyants sont-ils réconciliés? Troisième volet de votre enquête, Brice.
Bah oui, souvenons-nous que dans les années 10 du 21e siècle, assez récente, on a vu l'apparition des quatre cavaliers du nouvel athéisme, qui étaient donc Sam Harris, spécialiste en neurosciences, auteur de The End of Faith, Religion, Terror and Future of Reason, publié en 2004, qui ouvrait le banc, et il a été bientôt suivi de Richard Dawkins, un biologiste avec Pour en finir avec Dieu, un best-seller aux États-Unis en 2006, traduit en français en 2008. Christopher Hitchens, cet essayiste touche-à-tout que je vénère, dont le livre Dieu n'est pas grand a été publié également en 2009. Comment la religion empoisonne tout a également été publié en français, toujours en 2009. Quant à Daniel Dennett, Breaking the Spell, Religion and Natural Phenomenon, un spécialiste en sciences cognitives, il a été publié, lui, en 2006. Mais ce qui frappait dans la démarche de ces fameux quatre cavaliers du nouvel athéisme, c'était que ces quatre-là refusaient la paix des braves que proposaient à l'époque les défenseurs raisonnables des religions depuis déjà un certain temps. C'était en gros, nous ne vous contestons pas l'autorité qui est la vôtre, par l'observation, l'évaluation, l'expérimentation, eh bien, vous construisez des modèles prédictifs et vous découvrez des lois qui gouvernent l'univers matériel, du plus grand au plus petit des éléments le composant. Nous vous abandonnons la question du comment, elle n'est pas de notre ressort, mais laissez-nous proposer nos propres hypothèses quant à la question du pourquoi. En quoi vous gêne-t-il que nous attribuions à un créateur l'origine des lois que vous-même vous observez ? Alors les nouveaux athéistes répliquaient qu'il était impossible de faire l'impasse sur l'éventualité d'une intelligence créatrice, d'un dessein intelligent, et que pour eux, eh bien justement, ça n'existait pas. Car c'est une manière de raisonner à l'envers, à partir de l'état présent de l'évolution, que de croire y déceler un aboutissement nécessaire et planifié.
Mais Brice, depuis, les fronts ont considérablement bougé.
Eh oui, en une douzaine d'années, on a vu, du côté de l'histoire des religions, d'abord, de grands changements. Dans The Warfare Between Science and Religion, The Idea That Wouldn't Die, la guerre entre science et religion, l'idée qui ne veut pas mourir, l'historien américain des sciences Ronald Numbers met en pièce l'idée selon laquelle les religions révélées auraient constamment combattu le développement de la recherche scientifique. Au contraire, aucune institution n'a fourni, selon lui, autant de moyens à l'étude de l'astronomie, par exemple, que l'Église catholique entre le XIIe et le XVIIIe siècle. Et jusqu'au XIXe, eh bien, la science ne se distinguait pas de ce qu'on appelait la philosophie naturelle. Tom MacLeish, un physicien qui est vice-chancelier de l'université de Durham, estime que le récit du conflit permanent entre science et religion a été déconstruit ces dernières années par plusieurs historiens des sciences, dont Peter Harrison et Ronald Numbers, dont je viens de parler. Mais ce sont surtout James Ungureanu dans Science, Religion and the Protestant Religion, et puis Elaine Eklund dans ses enquêtes sur les croyances religieuses des scientifiques qui ont fait justice du mythe persistant d'un conflit irréductible entre savants et croyants. Une approche historiographique montre que c'est au milieu du XIXe siècle que s'est imposée cette thèse que ne vérifie pas l'histoire des sciences. Elle aurait pour origine, cette thèse, deux personnages éminents, tous deux américains, John William Draper, auteur d'un livre intitulé « Les conflits de la science et de la religion » qui a été publié en 1874, et Andrew Dixon White, qui était le premier président de la Société américaine d'histoire et qui était le fondateur de l'université Cornell. Il a publié en 1896 « A History of Warfare, of Science with Theology in Christendom »,« Histoire de la guerre, de la science avec la théologie dans la chrétienté ». Mais contrairement au grand récit de Draper et White, qui est une fable construite, l'histoire de la pensée scientifique est étroitement liée à celle de la religion et comporte bien plus de continuité que de discontinuité, écrit Tom MacLeish. Et il fait ressurgir des personnages décisifs de cette histoire, comme notamment l'évêque de Lincoln, Robert Grosseteste, qui, au XIIIe siècle, en Angleterre, recueillant des savants arabes les enseignements d'Aristote, fait figure de pionnier, puisqu'il est Alain, il eut l'intuition du Big Bang et qu'on trouve même dans ses écrits l'idée du multivers, une série de fluctuations parallèles à notre propre univers, régie par d'autres lois, d'autres constantes. Alors, pourquoi ce changement? Eh bien, peut-être sous l'effet du développement des départements de Science and Technology Studies, les fameuses STS, en vogue aux États-Unis. On y étudie la manière dont les facteurs culturels et sociaux interfèrent avec le développement des sciences. Comme tout discours de vérité, celui des sciences, y apprend-on, est socialement construit. Le postmodernisme est passé par là. Il a jeté des doutes sur la capacité des disciplines créées par la modernité occidentale, et y compris la science, à rendre compte de manière rationnelle de la réalité. Là-dessus sont venues se greffer les angoisses nées des développements récents des sciences et des techniques, nanotechnologie, intelligence artificielle, OGM, transhumanisme, dérèglement climatique. Pensez que Bruno Latour appelle à réexaminer les rapports entre science, maîtrise et théologie.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.